Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom, troisième livre, Vitiyinkan, épisode 9. C'est la dépression post-enquête, ton problème? Très drôle. Non, c'est les statistiques. Et c'est pour ça que je t'en parle à toi. Ouais, enfin quand même. Jusque-là, on n'avait pas pu bénéficier de ton côté rabat-joie. Dans l'équipe, ça nous fait un peu drôle, hein. Je suis désolé. Néanmoins, je voudrais avoir ton avis. Tu n'as pas l'impression qu'on l'a trouvé un peu vite? Bah, à partir du moment où on savait quoi chercher, la petite modification dans l'Aidon, c'était plus facile. Au lieu de s'amuser à passer toutes les villes virtuelles au tamis, on développe un détecteur de cette fameuse anomalie, on l'envoie à toutes les villes virtuelles, ils font passer dessous tous les visiteurs, et crac, nous on n'a plus qu'à attendre. Ouais, pour ça je suis d'accord. Et puis après, le coup de la centrifugeuse, là-dessus on est très fort, ok. Maintenant, regarde-le bien et regarde le fameux arbre des tests qu'on a récupéré sur le fameux ordi, les tests qu'il a fait pendant 2 ans. Tu trouves pas bizarre qu'on ait retrouvé une espèce de copie, pas forcément hyper efficace en termes de piratage, qui est assez loin finalement de l'aboutissement de la branche principale? J'ai du mal à te suivre. Bah, c'est pourtant simple. Tu développes un virus, tu lui enlèves tous les défauts, tu l'améliores au fur et à mesure. Le moment où tu te lances pour tester, tu testes la dernière version, tu testes pas une version intermédiaire. Là, ce qu'on a trouvé, c'est une version intermédiaire. Tu sous-entends qu'il nous a senti venir, qu'il nous a envoyé un appât, une sorte de leurre, une diversion? Statistiquement, t'en penses quoi? C'est pas la version la plus aboutie, elle est à moitié bancale, il a juste fait de la fauche, un peu, et depuis, rien, on n'en a pas trouvé un seul autre. Bon, ok. Statistiquement, Loon, je te suis. Seulement, il y a une faille dans ton raisonnement. Ce qui nous a permis de le trouver, c'est la trace qu'il laisse en modifiant l'Aidon. Et cette trace-là, elle est tout du long de ta fameuse branche. La dernière version la plus aboutie, elle l'a encore, cette trace. Mais c'est bien ce que je dis. Du coup, on aurait dû la trouver. Or, on n'en trouve pas. Comme s'il n'avait réellement injecté dans les villes virtuelles qu'une version bancale et inaboutie. Tu as raison, ça mérite réflexion. Mais le résultat est le même. Ce système, cette faille, que l'on peut détecter. Visiblement, c'est un truc de base. Il pourra jamais faire sans. C'est pas comme si tu pouvais penser qu'il est en train de développer une version qui n'aurait pas ça. Sans ça, il ne peut pas créer son coldish. Alors quoi? Justement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il continue à chercher quelque chose. Et dans une direction qu'on n'a pas encore repérée. C'est ça qui m'inquiète. Faut que j'en parle à Mérès. Ah bien justement, tiens, il cherchait. L'ambiance était lourde, et Loon comprit tout de suite qu'il se passait quelque chose quand il rentra dans la salle. Mérès lui dit « Je suis désolé, viens, on a rendez-vous. » Les autres évitèrent son regard. Silencieux, Loon suivit Mérès vers les ascenseurs qui menaient au noyau. Les lumières et la configuration de la grande salle ne lui laissaient aucun doute sur ce qui allait se passer. Quelque chose comme un procès. 9 personnes, en demi-cercle, une chaise, au centre, eux dans la pénombre, lui en pleine lumière. Lui, car bien sûr, personne n'a eu besoin de lui dire où est-ce qu'il fallait qu'il s'assoie. Mérès rejoint André Simitel, le patron du centre de recrutement, et une autre personne portant l'uniforme de l'IAMAS, dont le nom échappait à Loon, mais dont il avait déjà vu les photos et savait donc qu'il s'agissait d'un ponte. Celui qui prit la parole devait être dans le groupe du milieu. Loon distinguait vaguement des uniformes militaires. Une voix de basse, posée, mais ironique. Sauver l'humanité est une grande responsabilité, et obtenir les informations pour le faire, aussi. Une sueur froide inondait le dos de Loon. On y est. C'était incroyable comme il avait oublié cette histoire. Ce que Gus lui avait dit, au moment où il s'était quitté, au sous-sol du café Solneradis. Tout se déroulait exactement comme Gus l'avait prévu. On allait l'interroger. Le temps avait passé. Maintenant, il était sans doute libre de raconter ce qu'il voulait. Il n'arriverait jamais à attraper Gus. Quant à Clem, ma foi. Une silhouette qui était assise à gauche se leva et s'approcha de lui. Il vit alors qu'elle portait un masque. Une jeune femme sans doute, car la voix était féminine. Elle lui tendit une tablette. Nous allons juste lever un point qui est important pour nous. Utilisant un stylet, elle écrivit alors, devant lui, mot pour mot, le 2e alinéa de l'article 22, celui qui avait été rajouté de manière manuscrite dans son contrat à l'article confidentialité, pour lui demander de ne pas non plus divulguer les informations de tout ce qu'il avait pu apprendre avant. Les choses étaient donc claires. Il avait en face les militaires qui avaient sur lui droit de vie ou de mort, et peut-être des pontes politiques venues de toute la galaxie pour savoir comment il avait eu ces informations et décider de son avenir. Devant nous, vous pouvez, vous devez tout dire. Il y eut ensuite quelques mots d'Andrew Semitel et les encouragements de Mérès. Pendant près de 10 ans, sur Enarsemis, il avait craint de se retrouver dans cette situation, à devoir s'expliquer sur les informations qui lui permettaient de réussir aussi bien ses enquêtes, et donc de dévoiler sa source et de mettre Gus en danger. Mais là, les choses étaient différentes. D'abord, Gus lui avait pratiquement donné l'autorisation. Et puis, il venait de sauver l'humanité. Ses interlocuteurs en face l'avaient pratiquement admis. C'est donc presque avec soulagement qu'il se mit à table, comme on disait dans son jargon. Et puisqu'on parlait de Gus, il lui fallait bien commencer par cette époque, il y a plus de 15 ans, quand il avait franchi la ligne rouge. C'était important pour lui de commencer par cette période-là, où il pouvait expliquer qu'il y avait réellement échange d'informations. Il insistait sur ce point, car dernièrement, dans le dossier Koldish, il n'y avait pas eu échange d'informations. Il n'avait rien fait de mal, il avait respecté son serment. Aucune des informations en sa possession n'était sortie, en tout cas elle n'était pas sortie par lui. Il avait découvert qu'elle sortait d'autres manières, et comprenait, dès lors, qu'on le soupçonnait, même si c'est lui qui avait remonté l'information à Mérès. Évidemment, il était conscient que c'était sa parole contre la suspicion générale. Il espérait que Mérès le défende. Sa bonne foi, son honnêteté, ses 20 ans de service, tout cela plaidait en sa faveur. Mais, effectivement, il y a 15 ans, dans ses premiers échanges avec Gus, il avait bien violé le secret professionnel et livré des informations confidentielles. Sa dernière chance, plaider son honnêteté en mettant tout sur la table, en racontant tout, dans les détails, y compris tout ce qu'il aurait pu considérer lui-même il y a encore quelque temps comme de pures inepties, l'histoire du cycle de Yom, qui maintenant prenait une dimension différente, avec potentiellement des implications énormes. Espérant sauver sa peau sur cet épisode, il termina par celui-là. Après avoir raconté ses échanges avec Gus, il y a 15 ans, il raconta l'épisode du Solner à 10, puis le petit mot trouvé sur le pas de sa porte. C'est alors presque pour contextualiser qu'il raconta Los Angeles. Los Angeles et le Red Hust. Les échanges, d'abord avec Gus, puis avec celui qu'il ne savait pas être encore, le fameux Clem, qui semblait intéresser tout particulièrement les militaires. Malheureusement, il ne pouvait pas leur dire grand-chose. Retrouvant la sérénité du condamné à mort qui sait qu'il n'a plus rien à perdre, il s'étonnait de la rapidité avec laquelle il savait raconter cette histoire, en masquant certains points, en mentant légèrement sur d'autres, tout cela en gardant une totale cohérence et une totale impression de franchise. Ainsi, il pouvait parler de Gus, en entrant un petit peu dans les détails, de toute façon il ne le retrouverait jamais. Clem, il lâcha tout ce qu'il pouvait. S'il avait pu le charger, il l'aurait fait. Ça ne servait à rien. Visiblement, il le détestait déjà, et il n'en savait pas assez. Par contre, pas un mot sur Denis. Il donnait des détails avec une telle assurance qu'il sourit intérieurement en se disant que s'il avait été enregistré, en réécoutant son interrogatoire, il aurait presque pu se croire lui-même et se dire que Denis n'avait jamais existé. Denis, finalement peut-être le seul ami qu'il avait vraiment eu, qui lui avait peut-être sauvé la vie jusque-là. Denis, dont il ne cita le nom que 3 fois. Pour expliquer l'accueil à son arrivée, les instructions au moment de l'évacuation, et un coup de fil malheureux à son assistante quand il avait voulu parler de le Red Hust et qu'il s'était fait jeter comme un malpropre, décidant par la suite de garder sa problématique pour lui et de n'en parler à personne. L'histoire était tellement bien ficelée. Elle mettait tellement en valeur sa bonne foi, son honnêteté, que pouvait-il bien lui arriver? Ici, à Liamas, en présence de Mérès et des autres, on n'allait quand même pas le condamner à mort. Il connaissait pourtant le point d'achoppement, et quand il eut fini, baissant les yeux sur un « voilà », le caillou qu'ils avaient tous dans la chaussure fut jeté dans le cercle de lumière qui l'entourait. « Donc vous n'avez transmis aucune information, et au contraire, vous avez même prévenu Monsieur Mérès qu'il y avait des fuites. » « Exactement. » « Et ce Gus vous a aidé par pure amitié ?»« Oui, et je pense qu'il était tout de même un petit peu persuadé que cela ne servirait à rien, ce que Clem lui avait dit, la théorie de Lawson. » Que l'issue était inéluctable. Notre problème, monsieur Emeridies, c'est que vous ne nous dites pas toute la vérité. Et quelles qu'en soient les raisons, de ce fait, il nous sera difficile de vous faire confiance. » Une nouvelle voix sortit alors de l'obscurité parmi les trois du milieu. « Moi, je le crois. » Inhumain. L'effort était inhumain et Loon n'y arriva pas. Il ne put s'empêcher de sourire légèrement et dut baisser la tête, espérant que cela cacherait ce sourire. Puis, il releva la tête, car même s'il en avait vu son sourire, de toute façon, il n'avait rien à cacher. Bien sûr qu'il pouvait se réjouir de ce Deus Ex Machina face à tous, car tous devaient avoir beaucoup plus d'informations que même lui en avait, puisque Denis était parmi eux. Il y eut un rapide conciliabule, à voix basse, entre tous les membres de l'assemblée, puis la femme, qui avait écrit dans son contrat la clause de confidentialité, se leva et lui dit « Nous vous faisons confiance, nous vous croyons. N'oubliez pas l'article 22, vous pouvez disposer. » Soulagé d'être en vie, heureux de sentir sur ses épaules les mains fermes de Mérès qui leur accompagnait au rez-de-chaussée, Loon voyait l'horizon s'éclaircir. Après tout, ne venait-il pas de traverser, sans doute, la pire épreuve de sa vie, et avec brio qui plus est. Les regards inquiets de ses quatre collègues, quand ils rentrèrent dans la salle, lui firent encore plus chaud au cœur. Sans un mot, Mérès s'avança vers l'étagère aux éprouvettes, les vida consciencieusement chacune dans le bocal correspondant, se retourna et dit « Je paye ma bière !»
Loon, champion de la galaxie.
À ces mots, qui venaient de briser le silence, Mérès se retourna et mit une bille noire dans l'éprouvette.
« C'est injuste. Je réclame un procès équitable. »
Et crac, deuxième bille noire. La tension était telle qu'il fallut plus de 10 minutes pour que les rires cessent, sachant que Seban avait lui-même arrêté quelques minutes avant, ayant mal aux mains d'avoir tapé comme une brute sur son bureau. Nul doute que dans tous les bureaux environnants, tout le monde avait encore levé les yeux au ciel en se disant « Tous des cinglés chez Mérès. » Oui, une famille de cinglés. Loon avait trouvé sa famille. Il était heureux. Et c'était une belle fin pour cette histoire. « Mais t'es complètement malade. Combien tu dis ?»«
27 mètres carrés. » »«
Tu vas passer de 40 mètres carrés à 27 mètres carrés en augmentant ton loyer de 50% ?»«
Alexia, tu peux pas comprendre. T'es une platone. Les autres aussi, d'ailleurs, vous êtes tous des platones chez Mérès.
Je vais être à 10 minutes de Dialden. Dès le petit déjeuner, hop. Le week-end, pour un pot de verdure, hop.
Le week-end, mais c'est ton lieu de travail, tu vas pas venir ici le week-end.
Alexia, t'as une famille?
Moi non. Dès que je veux aller en ville, il faut que je mette ma combinaison.
Vous vous rendez pas compte à quel point c'est un enfer. Le dôme, c'est un vrai bonheur. En y restant 5 jours d'affilée pendant la crise, je peux pas t'expliquer.
Quoi, t'as été heureux? Dormir dans les couloirs sur une paillasse? Faire la queue pour les douches de la salle de sport?
Eh ben ouais, s'il y avait des chambres ici, je sortirais plus jamais de Dialden.
Franchement, je te comprends pas.
Mais réfléchis, je suis pas comme toi, j'ai pas de famille. Qu'est-ce que je vais avoir comme vie sociale, systématiquement avec le connard et la combinaison? Je peux même pas aller manger chez vous, vos appartements sont pas protégés. Et je vais pas vous inviter chez moi, déjà 40 mètres carrés c'était trop petit.
Mais financièrement, tu gagnes pas assez.
Je sais, ben, je vais taper dans les économies. J'ai encore une 15aine d'années à tirer. Après, je pourrais aller ailleurs. En attendant, j'ai cette super opportunité à 300 mètres de l'entrée de Dialden. Je saute dessus.
Mouef. Enfin, c'est ta vie, hein.
Alexia, tu comprends pas. Enfile ma combinaison et tu te rendras compte de ce que je vis à chaque fois que je sors à l'extérieur.
Tu parles. T'es tellement gringalet, j'arriverai même pas à rentrer une jambe.
Bon, c'est fini les pipelettes, là? Allez, en piste. Loon va pouvoir réellement capturer son premier backlon. Et moi je dis, ça vaudra bien une bière.
Le silence qui suivit fit que tous les regards se tournèrent vers Seban, qui aurait dû acquiescer bruyamment. Il était livide, et la grimace crispée qui déformait son visage le laissait baver, visiblement depuis déjà quelque temps. Dans un dernier sursaut frénétique sur ses touches, il lâcha. Avant de s'effondrer. Nous étions déjà sur lui, pendant que Mérès enfonçait le bouton d'alarme. « Une ambulance, vite !» Il sortit en courant du bureau, sans doute pour aller chercher les secours encore plus vite. J'avais déjà commencé les massages cardiaques. Carmen, fortement impressionnée par le malaise que son père de cœur venait d'avoir, resta quelques instants démunie. Puis, s'avisant que nous étions déjà 3 à nous occuper de lui, et visiblement plutôt bien, son esprit professionnel prit le dessus et elle se glissa entre nous pour récupérer le vocodeur. Nous savions tous que quand Seban tapait trop vite, et qu'en même temps il utilisait des mots qui n'étaient pas forcément reconnus immédiatement par le dictionnaire, le premier résultat vocal, qui cherchait à garder le rythme de frappe pour transcrire l'émotion, était parfois incompréhensible. Il s'en rendait alors compte lui-même, et pouvait se répéter comme s'il parlait lui-même. Sauf que c'était plus facile. Il y avait un petit bouton sur le vocodeur. Il lui suffisait d'appuyer, et la dernière phrase était répétée, sur un tempo plus long, et après que l'intelligence artificielle eût réellement reconnu les mots. Bouleversé, et inquiète de ce que Seban avait pu découvrir, les yeux fixés sur l'ordinateur où défilait du code, Carmen appuya sur le bouton.
Backlog d'un coldish, identité flinguée, duplication infinie, fin de l'humanité.